Nous entamons maintenant notre dernière rubrique de notre émission, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la rubrique juridique. Internet n'est pas une zone de non-droit, et pour être un internaute responsable et citoyen, il faut connaître la législation, hein, et on en a parlé tout au long de cette émission. Un établissement scolaire, une classe, se gère aujourd'hui avec de multiples outils numériques, hein. On gère les notes, on gère les menus de la cantine, tout cela peut être consulté en ligne, le cahier texte aussi maintenant. La sécurité parfois est renforcée par un système de vidéosurveillance. Voilà autant de nouvelles responsabilités qui incombent maintenant au chef d'établissement, hein, Monsieur Louis, vous en conviendrez.
Absolument.
Alors, au printemps dernier, peut-être avez-vous assisté au séminaire des chefs d'établissement mené par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, séminaire mené par Madame Roque-Bonnet, qui est attachée juridique à la direction des affaires juridiques de la CNIL et notamment en charge du dossier éducation nationale. Et Madame Roque-Bonnet a accepté de répondre à nos questions pour nous éclairer sur le traitement des données personnelles. Alors, en quelques mots, Madame Roque-Bonnet, pourriez-vous nous expliquer, en fait, quel rôle joue la CNIL vis-à-vis de l'éducation nationale?
C'est vrai que depuis 2008-2009, la CNIL a cherché à avoir un rôle donc double, on va dire, à la fois pédagogique, en se rendant, comme elle l'a fait dans le rectorat qui est le vôtre au printemps dernier, pour effectuer des formations, des interventions de sensibilisation, et puis pour passer un message sur les grands principes de la loi informatique et liberté, la loi du 6 janvier 1978, pour aussi sensibiliser les professeurs, les chefs d'établissement, les élèves, les étudiants, à l'ensemble des contenus qui sont mis à disposition en ligne sur le site de la CNIL. Alors notamment l'existence de 10 fiches pédagogiques sur comment gérer ces traces sur Internet, les blogs, les spams. Et puis effectivement, c'est dans ce cadre-là que la CNIL a décidé, pour le rapport annuel 2010, qui est paru il y a quelques semaines, de consacrer une page centrale, hein, en indiquant qu'il s'agissait d'une priorité concernant l'éducation nationale et la sensibilisation à l'Internet responsable. Vous voyez que c'est vraiment l'un des points phares de l'action de la CNIL que d'intervenir au niveau de l'éducation nationale.
Pourriez-vous justement nous dire, par exemple, quelles sont les démarches qu'un chef d'établissement doit effectuer lorsqu'il intègre l'environnement numérique de travail, l'ENT ?
Alors effectivement, on a une place spécifique pour les espaces numériques de travail, puisque donc il s'agit d'un outil quotidien. Nous l'avons encadré en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à partir de 2006, puisqu'un acte réglementaire du 30 novembre 2006 indique les principales conditions de mise en œuvre de cet espace numérique de travail, donc concernant notamment les finalités, c'est-à-dire la gestion administrative, pédagogique et financière de la scolarité de l'élève, les données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire figurer sur cet espace numérique de travail, la durée de conservation, les destinataires et puis les droits des personnes qui participent à cet espace numérique. Donc dans ce cadre-là, si vous voulez, pour le chef d'établissement, il y a deux options. La première, c'est de consulter sur notre site cet acte réglementaire unique et de voir si l'ensemble des préconisations et du cadre qui a été établi en 2006 correspond à ce que le chef d'établissement veut mettre en œuvre. Dans ce cas de figure, effectivement, il devra simplement, en ligne, sur le site de la CNIL, effectuer un engagement de conformité qui est repérable sous le label « déclaration simplifiée ». Donc, si vous tapez sur le moteur de recherche de la CNIL, hein, du site « déclaration simplifiée », vous pourrez donc faire un engagement de conformité en ligne à cet acte réglementaire unique qui a donc le sobriquet de ARU 003. Ce qui a été prévu, c'était donc la finalité, je l'ai indiqué, c'est strictement la gestion administrative, pédagogique et financière. Il a été prévu que seules les données nécessaires à la création d'un compte figuraient dans l'ENT. Par exemple, on exclut la classe socio-professionnelle des parents. Une durée de conservation strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'ENT, c'est-à-dire l'année scolaire plus 3 mois à compter de la fermeture du compte. Une obligation de sécurité, donc par exemple, hein, pour être très concret, les échanges de données doivent être intégralement chiffrés et pas simplement le mot de passe. Puis dernière petite mention sur cet acte réglementaire unique, l'information des personnes doit être effective, notamment des jeunes ou des professeurs qui contribuent, et des mentions doivent figurer sur la page d'accueil du portail. Si tel est le cas, donc si le chef d'établissement respecte l'ensemble de ces points, aucun problème pour qu'il effectue un engagement de conformité. Dans le cas contraire, il doit effectuer en ligne une demande d'avis, puisqu'on est sous le régime juridique de l'article 27 de notre loi. Sa demande d'avis sera traitée dans un délai de 2 mois, prolongeable 2 mois si nécessaire. Si à réception du dossier, lorsqu'il est enregistré dans nos services, le délai de 2 mois est écoulé et qu'il n'y a pas de réponse, ni même de courrier de demande de prolongation de délai, à cette échéance-là, effectivement, donc 2 mois ou bien 4 mois si la CNIL a indiqué qu'elle souhaitait proroger le délai, il est considéré que la réponse est positive. Voilà.
Et alors là, justement, nous parlions des démarches à effectuer lorsqu'un établissement s'inscrit dans le cadre de l'ENT, mais qu'en est-il des établissements hors ENT qui manipulent eux aussi des fichiers qui contiennent des données personnelles ?
Puisque vous me donnez la parole, j'en profite pour préciser les cas donc spécifiques qui devraient retenir l'attention des chefs d'établissement. C'est tout d'abord le fait qu'il existe des dispenses de déclaration. Alors c'est le cas notamment pour gérer les membres d'associations qui seraient collatérales par rapport à l'établissement, la paye du personnel, le traitement d'activités personnelles. Par exemple, si un professeur crée un blog qui concerne sa matière, les mathématiques par exemple, il n'a pas effectivement le déclaré auprès de la CNIL. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour avoir l'ensemble de ces dispenses, le chef d'établissement peut se rendre sur le site de la CNIL. Il est possible de cliquer sur « Délibération ». Et là, vous avez sur l'écran le développé de toutes les dispenses qui s'appliquent. Et donc, le chef d'établissement peut vérifier si oui ou non le traitement qu'il met en œuvre est dans le cadre de ces dispenses. De la même manière, il aura toutes les déclarations simplifiées qui pourraient l'intéresser. Il y en a 5 qui le concernent principalement. Donc on va avoir la norme simplifiée numéro 9 qui concerne tout ce qui est centre documentaire, prêt de livres, support audiovisuel et gestion de consultation de documents. Il y aura aussi l'autorisation unique qui a elle aussi un nom tout à fait numérique, AU009, qui est relative à l'utilisation des dispositifs de reconnaissance du contour de la main pour accéder au restaurant scolaire. De la même manière, un engagement de conformité suffira lorsqu'il s'agira pour les établissements scolaires de gérer administrativement, comptablement, pédagogiquement les écoles et les établissements d'enseignement secondaire. Ça, c'est la norme simplifiée 29. La norme 33, et c'est l'avant-dernière, est relative au traitement mis en œuvre par les communes pour la gestion des élèves, donc tout ce qui est maternel et élémentaire. Et la toute dernière, la norme simplifiée numéro 27, est relative aux services offerts par les collectivités territoriales, donc tout ce qui est transport scolaire, restaurant scolaire, centre aéré. J'attire l'attention des chefs d'établissement sur le fait que, comme je l'ai indiqué, la demande d'avis est exigée dans le cadre de téléservices, comme par exemple les ENT, ou dès lors que l'on traite le numéro de sécurité sociale.
Je ne peux pas ne pas vous poser la question puisque c'est vraiment un thème assez brûlant. Est-ce que la CNIL soutient les actions pédagogiques qui sont menées par certains enseignants sur les réseaux sociaux? Alors j'ai cité Facebook, j'aurais pu citer également Twitter par exemple.
Alors effectivement sur l'utilisation en classe par exemple pour les élèves les plus jeunes de Twitter pour leur apprendre à écrire, à lire, etc. Là on est dans un cadre scolaire, on est dans un temps scolaire, donc c'est vrai que ça ne suscite pas de réaction particulière. En revanche, l'utilisation de ces outils en dehors du temps scolaire, c'est-à-dire le soir pour rappeler par exemple qu'une interrogation a lieu le lendemain, ça effectivement ça nous concerne puisqu'on est en train de basculer du temps scolaire vers le temps de la vie privée de l'élève et de l'enfant, et donc en ce sens c'est vrai que nous nous positionnons avec finalement la même approche que lorsque nous recevons des déclarations et que nous jugeons de la proportionnalité des traitements, c'est en disant qu'il y a un principe de finalité. Donc si une page Facebook éducative est créée par un établissement, par une classe, par un groupe de travail ou bien par un professeur, mais qu'elle est spécifiquement dédiée à sa mission d'enseignant, pour nous ça ne pose pas de problème puisqu'on a un principe de finalité qui est respecté. Si le professeur utilise sa page personnelle, là on mélange tous les genres, effectivement ça n'est pas quelque chose que l'on peut encourager. De la même manière, pour reprendre les grands principes de la CNIL, les données qui seront traitées doivent être strictement pertinentes à sa mission. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contact privé sur une page Facebook dédiée à la mission d'enseignement. Donc avoir des propos qui restent dans le principe de neutralité que l'enseignant doit toujours respectée. De la même manière encore, lorsque l'élève a quitté la classe, le groupe de travail ou l'établissement concerné, il n'est pas nécessaire, il est même recommandé de supprimer cette personne en tant qu'ami sur Facebook, en tant que contact sur tout autre site. Et puis la dernière, enfin les deux derniers points, c'est qu'il faut s'assurer que qui de droit pourra accéder à ces données, mais pas plus que nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'un chef d'établissement ne pourra pas être interpellé sur la base d'un propos tenu dans le cadre d'un élève professeur et d'un cours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'informer les étudiants, les enseignants, les élèves les plus jeunes notamment, du fait que c'est une possibilité, mais que ça n'est certainement pas une obligation. Je rappelle quand même que selon les dernières études de la CNIL, hein, menées avec l'UNAF et Action Innocence, on a à peu près un enfant sur deux qui est connecté à Facebook, donc ça veut dire un enfant sur deux au collège, hein, qui pourrait être exclu. Donc, encore une fois, c'est un plus, mais ça n'est certainement pas un support essentiel et obligatoire que l'enseignant doit utiliser.
Peut-être aussi c'est l'occasion de rappeler que normalement pour s'inscrire à Facebook par exemple, l'âge légal est de 13 ans. Même s'il est peut-être question aux États-Unis d'essayer de rabaisser encore un petit peu de quelques années cet âge légal, mais je pense qu'il est assez bon de prévenir les auditeurs sur ce point.
Les 2 et 3 mai, hein, 2011, en fait, au lycée Louis-le-Grand à Paris, donc s'était ouvert un ensemble de débats sur le harcèlement numérique. Alors, ça faisait écho au rapport de Monsieur de Barbieux, qui en fait fait état de données totalement alarmantes, hein, quand même, il faut le dire, d'élèves qui se disent harcelés de manière douce ou de manière beaucoup plus dure via les supports numériques, à hauteur donc de 8% pour des propos un petit peu déplacés, légèrement diffamatoires ou un petit peu. Et donc ils sont 6% à subir un harcèlement donc qualifiable juridiquement comme tel, c'est-à-dire vraiment à souffrir de lynchages verbaux et parfois vidéo. Donc on est sur quelque chose qui est assez grave, d'où la mobilisation du ministère en collaboration avec la CNIL et puis l'association e-enfance et puis Facebook aussi qui a été sensibilisé. Donc sur ce point-là, c'est d'ailleurs l'objet principal, je le rappelle si jamais les auditeurs souhaitaient le consulter, du rapport annuel, il y a 6 pages sur l'enseignement qui porte essentiellement sur le cyberharcèlement, le cyberbullying, et qui indique comment envisager les choses, comment essayer de gérer ce problème nouveau qui ne fait que croître, hein, quand même.
Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, je vous invite vraiment à découvrir sur le site de notre web radio les bonus de l'émission, en particulier d'autres réponses à d'autres questions de la part de Madame Roquebonnet. Alors, je vous les cite pêle-mêle rapidement. Quelques conseils pour utiliser son smartphone en toute sécurité, toutes les démarches à effectuer, les précautions à prendre pour un chef d'établissement lorsqu'il fait installer un système de vidéosurveillance, quelques remarques aussi sur les échanges d'emails entre professeurs et élèves, et puis un petit point sur la convention cyberharcèlement qui a été récemment signée par le ministère. Alors,